ensemble, nous allons prendre le pouls des hôpitaux toulousains à l'aube d'un pic annoncé pour tout bientôt. Comment s'organisent les équipes et la prise en charge des soins? Nous voyons ça tout de suite. Bonjour Vincent Boone.
Oui, bonjour.
Merci docteur d'être avec nous ce matin alors que vous êtes évidemment, on l'imagine bien, sur la brèche. Vous êtes, je le rappelle, le chef du service du SAMU 31 au CHU de Toulouse. Docteur, on attendait la vague pour cette fin de semaine. De fait, le nombre de cas augmente. Il y a eu une journée noire en Occitanie mercredi avec 18 décès en 24 heures. Est-ce que ça y est, nous y sommes? On entre dans le dur?
Alors, oui et non, on va dire. On a effectivement une augmentation du nombre de cas et de patients hospitalisés, de patients graves et de décès. Je crois qu'on a quand même un petit peu de chance en Occitanie. Le confinement me semble quand même jouer son rôle. Et au lieu du tsunami qu'ont eu ou qu'ont les autres régions, notre vague me semble quand même acceptable par rapport à nos capacités opérationnelles. Donc ça, c'est plutôt, je crois, une bonne nouvelle.
Ça veut dire que la vague qu'on nous annonce, on y est, mais c'est une vaguelette, c'est ça qu'on entend? C'est ça qu'on comprend?
Alors, vaguelette, c'est peut-être exagéré dans l'autre sens. On va dire que c'est effectivement un nombre important de patients hospitalisés, ça c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, notre capacité opérationnelle est vraiment pas mise à défaut. Je pense qu'on a eu effectivement deux facteurs, hein. On est d'accord. Le premier, c'est d'une part, l'épidémie est arrivée un petit peu plus tard. Voilà, donc ce qui fait qu'on ait plus de temps pour se préparer que les autres régions. Et d'autre part, le confinement, ça fait maintenant plus de 15 jours que la population est confinée et ça nous aide énormément. Je crois qu'il faut le souligner. Vous n'avez pas idée à quel point nous, on est aidés par ces mesures-là.
Ça veut dire que le pic, tout de même, pour qu'on soit bien, bien clair, docteur, le pic qu'on nous annonce, nous y sommes, mais ce n'est pas un pic aussi insurmontable qu'on s'imaginait, c'est ça?
Oui, voilà. Alors après, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Enfin, pic, c'est encore une fois, ce sera sur plusieurs jours. Nous, on l'attend effectivement pour cette semaine ou début de semaine prochaine. Ce qu'on espère, c'est qu'après, ça arrêtera de monter, si vous voulez. Voilà. Pour l'instant, l'activité monte un petit peu tous les jours, mais c'est une montée raisonnable, on va dire. Donc tout à fait. Le pic, il y est là maintenant, là, sur ces quelques jours qui arrivent. Et encore une fois, on a beaucoup de chance, je crois.
Ça veut dire que les images que l'on voit à la télévision ou ce qu'on entend à la radio sur ce qui se passe dans l'Est et à Paris, Dieu merci, il y a des chances que ça ne se passe pas chez nous.
Alors oui, je pense moi qu'on a quand même un peu plus de chance que les autres, ça c'est clair. Je reste persuadé qu'on a probablement une chance de passer le cap comme ça, et à tel point, vous savez, qu'on fait jouer la solidarité entre les régions.
Bien sûr, on va y venir.
Voilà, et donc on a la possibilité d'accueillir des patients de l'Est, de la France principalement, pour soulager un peu mes confrères qui sont vraiment, eux, dans une difficulté terrible.
Alors on va rappeler toutefois, docteur, la situation sanitaire ici dans la région. Je crois qu'il y aurait, vous me dites, il y a eu 120 décès en Occitanie, une capacité d'accueil, vous me dites si je me trompe, hein, de 455 lits de réanimation au total au CHU de Toulouse, c'est bien ça?
Alors, c'est, on va dire, sur le bassin de l'Aix-Midi-Pyrénées. Si on prend l'Occitanie, on a à peu près 900 places de réanimation et pratiquement pas tout à fait 500 sur, on va dire, le l'Aix-Midi-Pyrénées plus une partie de l'Aude, à peu près.
Et donc aujourd'hui, c'est très important ce que vous nous dites, ces urgences ne sont pas saturées. Je crois qu'il y a 321 lits occupés en réanimation. Alors, vous êtes préparé, vous avez bénéficié, vous nous dites, de cette attente. On imagine une attente longue et pénible, probablement pour les équipes, mais ça vous a donné du temps. Comment est-ce que vous avez préparé les personnels soignants à faire face à cette crise?
Alors, il y a plusieurs types de préparation, hein. Le premier, c'est effectivement préparer des lits de réanimation. Lits de réanimation, ça veut dire former des personnels, ça veut dire rajouter des respirateurs. Vous savez que c'est un équipement assez critique. Et puis, un deuxième volet d'organisation qui est sur les tenues de protection et sur la protection du personnel. Et donc, on a eu le temps de former les personnels à s'habiller, à déshabiller surtout. On a eu le temps de mettre de côté des blouses, des masques chirurgicaux, des masques FFP2, justement pour être prêt au moment où le pic arrive.
Mettre de côté, ça veut dire que vous en aviez, vous n'êtes pas dépourvu comme on l'entend un peu partout?
Alors, les stocks sont tendus, on est tous d'accord, mais on a de quoi faire face. D'une part, parce qu'effectivement, alors le CHU avait été quand même peut-être un peu plus prévoyant que d'autres établissements. D'autre part, il y a un grand élan de solidarité qui s'est installée. Et effectivement, depuis plusieurs jours, on récupère des masques, des blouses de la part de confrères, de la part de collectivités, de la part d'associations qui font un énorme boulot en faisant de l'inventaire et en distribuant aux professionnels de santé libéraux, aux établissements qui sont en difficulté. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a bien sûr de quoi tenir. Donc ça, c'est bien.
Et on vous sent confiant, et ça fait plaisir, docteur, par les temps qui courent, un peu d'espoir. On vous sent très confiant et serein.
Oui, alors ça c'est ma nature, probablement ma nature profonde. Hein. J'ai du mal à être pessimiste. Non, après, si vous voulez, on essaie vraiment au maximum d'être prêt. On a fait tout ce qu'on pouvait, je crois, vraiment, authentiquement. On a travaillé très, très, très dur pour être prêt. Je me dis que de toute façon, quoi qu'il arrive, on aura vraiment donné le maximum. Donc, on est malgré tout serein sur notre préparation. Voilà. Après, je ne sais pas si on sera dépassé ou pas. Actuellement, ce n'est pas le cas. Mais ce que je vous assure, c'est qu'on a tous beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour justement ne pas être débordés.
Et quelle organisation, quel lien avec le privé? On entend aussi que le privé n'est pas encore très sollicité, j'entends les cliniques.
Alors, il y a une organisation qui est vraiment parfaite. On travaille d'une seule voix, ça c'est très agréable. Tous les établissements privés du bassin toulousain, et je dirais même de la région, jouent le jeu en parfaite harmonie avec l'établissement public. Donc on a une cellule de répartition des patients. L'idée, c'est que quand un patient est malade, il aille dans un établissement où il y a de la place et où il reste de la place en suivant. Donc actuellement, aucun établissement n'est complètement saturé parce qu'on répartit les patients sur le bassin de population de telle manière que tout le monde monte en charge progressivement et que donc personne ne se retrouve plein d'emblée, à la différence de ce qui s'est fait peut-être ailleurs où on a des établissements qui débordent et d'autres qui manquent vraiment de patients. Nous, tout le monde a un taux de charge à peu près identique. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a eu beaucoup de chance là aussi.
Bien, on est content d'entendre un médecin parler de chance aujourd'hui. Alors, la solidarité nationale, vous l'avez dit, joue le jeu également. Vous avez accueilli et vous allez continuer à accueillir des patients du Grand Est. Où vont-ils être soignés? Est-ce qu'il y en aura encore beaucoup?
Alors, oui, c'est quelque chose d'assez incroyable pour nous. Donc, on va directement sur le tarmac de l'aéroport de Blagnac, au milieu des vapeurs de Pyrénées, si vous voulez. On se retrouve à accueillir des patients, 6 patients par jour, depuis maintenant 3 jours, et puis on continuera aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un A330M qui va se poser de l'armée, et probablement la semaine prochaine également. Donc ce sera plusieurs dizaines de patients qui seront accueillis et répartis, toujours pareil, sur l'ensemble du bassin, pour pouvoir aider un peu, soulager nos collègues. Pour avoir discuté avec eux, je vous assure, c'est vraiment pour eux une vraie bouffée d'oxygène que de pouvoir justement être aidé, être un peu soulagé, retrouver un peu de capacité opérationnelle, parce que chez eux, effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup de patients qui arrivent.
Vous dites que c'est une expérience assez incroyable. Pour quelle raison?
Oui, c'est une expérience assez incroyable. Alors, si vous voulez, la médecine de catastrophe, c'est quelque chose pour lequel on se prépare beaucoup. Hein. À Toulouse, on a...
Bien sûr, culture, hein. Bah oui, votre
voilà,
centre.
Exactement, on a vécu AZF, on a vécu MERAS, c'était des événements cinétiques très courtes. Alors AZF peut-être un peu plus longue, mais on va dire les blessés arrivent dans un temps assez court, il faut les soigner sur quelques heures, quelques jours maximum, et puis après l'événement s'arrête et on passe à la phase de résilience, en fait, de récupération et de reconstruction. Là c'est très différent, puisqu'en fait au lieu de faire un 100 mètres ou 200 mètres, on fait un marathon. Il faut se préparer à tenir plusieurs mois. C'est complètement différent en termes de fatigabilité, c'est différent en termes de relève des équipes, de morale. C'est tous ces aspects-là auxquels on n'avait pas forcément l'habitude et auxquels on se prépare maintenant puisqu'on savait que ça allait durer un petit peu. Et tous ces enjeux-là qui nous enrichissent, ça c'est clair. Voilà. Après, effectivement, grosse solidarité de la nation. Clairement, beaucoup, beaucoup d'aide. On a beaucoup de boulangers qui nous offrent des chocolatines, des gens qui nous sourient, qui nous laissent passer devant. C'est très agréable de savoir que la population est avec nous. Oui, oui. Donc c'est une vraie expérience de vie et pour ça, c'est quelque chose qui va beaucoup nous enrichir. Voilà, c'est très dur. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de morts, beaucoup de solitude aussi, parce que les patients forcément sont privés de visite, et ça c'est quelque chose de très dur pour tout le monde, mais derrière il y a quand même cet énorme élan en tant qu'une nation nous soutient, et ça fait très plaisir.
On vous sent porté effectivement, alors peut-être qu'il est encore un peu tôt pour analyser, mais tout de même j'aimerais vous emmener là-dessus aussi. Il faudra, quand l'épisode sera définitivement derrière nous, revenir sur les loupés de la gestion de la crise, notamment au sommet de l'État. Quelle est votre analyse à vous, docteur Vincent Boone?
Ah, Alors c'est difficile de parler de loupé. Je pense qu'il faut quand même aussi parler de ce qu'on a fait bien. Il y a des choses qui marchent
au
bien.
Au sommet de l'État.
Au sommet de l'État, alors peut-être probablement effectivement les stocks de masques, ça fait partie des choses qu'on n'avait probablement pas assez anticipées parce que tout le monde a été un peu pris de court. Je crois qu'il est clair qu'il faut une production nationale et une autonomie nationale en termes de tenue de protection des personnels. Ça m'a l'air vraiment bien. Ensuite, sur le confinement, effectivement, c'est une décision qui est très difficile à prendre. Quelques jours plus tôt, peut-être, aurait pu discuter. Mais encore une fois, là, pour le coup, je pense que la décision a été bien prise et c'est une bonne décision. Et puis après, il y a eu effectivement un petit temps de désorganisation initialement. Je crois que personne ne s'attendait à une telle ampleur, une telle vague, une telle, tsunami, comme on l'a dit. Hein. Maintenant qu'on a pris un peu la mesure, on est mieux organisé et je crois qu'on sortira tous grandis de cet épisode.
On a parlé aussi de la proportion de lits de réanimation par habitant.
Ah oui, alors c'est toujours un critère difficile en fait. On va dire qu'en fonctionnement nominal, les lits de réa suffisent effectivement, mais il faut se préparer à des choses un petit peu exceptionnelles. On est dans un monde mondialisé, on est dans un univers où les maladies vont se répandre. Il y en aura d'autres, des épidémies, c'est sûr. Je crois qu'il faut anticiper, gagner d'expérience avec cette épidémie et prévoir clairement la suite. Là, c'est sûr que pour nous, en tout cas, plus rien sera comme avant, ça c'est clair.
Plus rien ne sera comme avant. On fait quoi demain pour l'hôpital? Ça sera quoi la priorité? Ça sera ma dernière question.
Ah, la priorité, je vais vous dire, c'est probablement soigner les urgences, si vous voulez un avis très très partiel, mais soigner les urgences, soigner la gériatrie, parce que c'est l'avenir, ces deux spécialités. Remettre un peu d'humain peut-être aussi, ça c'est important, un peu moins de technique et un peu d'humain. Et puis je pense quand même que tout ça, ça sera pris en compte. Hein. Je pense que plus rien sera comme avant.
Plus rien ne sera comme avant. On va rester sur ces mots pleins d'espoir. Merci à vous, professeur Vincent Boone. Vous êtes le chef du service du CAMU 31. On entend hein, dans vos mots, et même si c'est votre tempérament, beaucoup de d'optimisme et en tout cas de calme. Beaucoup de calme face à cette situation. La vague annoncée semble moins grosse. En tout cas, vous y êtes préparé. Un grand merci de nous avoir accordé ce temps ce matin. Merci, docteur.
Merci à vous. Au revoir.